Chapitre 15. Sous un ciel de plus en plus plombé, Nathan approchait de la demeure du sorcier de chair. Curieux et excité, il éprouvait aussi un rien d'anxiété. André serait-il assez compétent pour lui rendre ses pouvoirs? Après tout, si Rouge l'avait envoyé ici, ce n'était pas pour rien. Le manoir d'André se révéla facile à trouver. Pas au sommet de la ville, comme les autres résidences des conseillers, mais un peu au-dessous, non loin d'une arène en plein air géante. Comme Nathan s'y attendait, la résidence à trois niveaux se révéla faste et luxueuse. Avec ses murs en marbre blanc, ses colonnes et ses portiques, elle faisait plutôt penser à un palais. Quand le vieil homme traversa la cour, ses semelles firent crisser les graviers de l'allée. Fasciné par le jardin exotique, il eut du mal à en détourner le regard. En particulier, il s'attarda longuement sur les haies qui semblaient avoir été lentement torturées, brisées branche après branche même, puis partiellement restaurées. On y distinguait des fleurs oranges aux allures d'hibiscus, mais avec un parfum beaucoup plus âcre. Comme les haies, les arbres ratatinés aux branches distordues surchargées de fleurs firent frissonner l'ancien prophète. Dans un coin, Nathan s'arrêta devant un parterre de fleurs presque aussi hautes que lui, avec une tige grosse comme son bras et une corolle rouge de la taille de sa tête. Quand il se pencha pour mieux voir, il constata que le pistil brillant bougeait comme les yeux d'un insecte. Frissonnant de plus belle, le vieil homme resta néanmoins fasciné. D'accord, ces plantes n'étaient pas banales, mais elles ne semblaient pas dangereuses, si on voulait bien oublier à quel point elles s'écartaient des critères naturels définis par le Créateur. En un sens, André méritait une mention particulière pour son imagination. À surplomb du monde, Nathan avait lu d'innombrables grimoires avec l'espoir d'y trouver la solution de son problème, sans aucun résultat. Au fil des jours, être incapable d'allumer un feu ou d'invoquer une flamme de paume avait fini par le rendre malade. Étant très loin d'être un imbécile, même sans son don, il s'était acharné à lutter contre sa dépendance à la magie. Par exemple, il était devenu un bien meilleur escrimeur. Cela dit, il se sentait vide. Quelque chose manquait en lui, et il ne se reconnaissait plus vraiment dans une glace. Après que le changement stellaire l'eut privé de son don de prophétie, la dégringolade ne s'était plus jamais arrêtée. Quand il lui arrivait de capter en lui une étincelle de don, le résultat, s'il tentait de lancer un sort, était une catastrophe ou un échec grotesque. Déchiré, il n'osait plus en appeler à son don, mais il ne parvenait pas non plus à en faire son deuil. Il devait le retrouver, et à Ildakar, quelqu'un serait en mesure de l'aider. André, peut-être. Quoi qu'il en soit, il était prêt à tout pour réussir.
« Je vois que tu admires mon jardin. »
Appuyé à une colonne, devant sa porte d'entrée, le sorcier de chair eut un étrange sourire. Pris par surprise, Nathan réussit à le cacher et rendit son sourire à André.
« Les plantes sont hors du commun. Où les as-tu eues ?»«
Eues ? Mon ami, je les ai créées. Certaines pour le plaisir et d'autres pour m'entraîner en vue de plusieurs expériences que j'ai en réserve. Si tu savais ce que j'ai appris en déchiquetant des créatures vivantes, puis en les réassemblant. »
Nathan s'éloigna des grandes fleurs à l'allure menaçante.
Avec un peu de chance, tu pourras mettre tes connaissances à mon service.
André tira sur la pointe de sa barbe tressée.
De fait, ancien sorcier, tu es un défi à ma hauteur. Je te promets de t'étudier sans négliger le moindre détail ni reculer devant une expérience. Nous commençons?
Nathan suivit son hôte dans une salle obscure au plafond soutenu par de larges colonnes. Même si André semblait plus motivé par la curiosité que par la solidarité sainte des sorciers, il se réjouissait qu'il ait consenti à l'aider. Le sorcier de chair le guida jusque dans la première aile de sa demeure, bizarrement obscure même par un après-midi grisâtre. Alors que les plafonds étaient largement ajourés, on les avait couverts de tentures indigo, comme les fenêtres, pour entretenir une atmosphère nocturne permanente. Dans les alcôves et les recoins, de petites lampes magiques peinaient à dissiper la pénombre. Au milieu d'une grande salle où il se sentait pourtant à l'étroit, Nathan remarqua du premier coup d'œil trois tables, immaculées, assez longues pour qu'un être humain y tienne allongé. Dans un concert de sifflements de vapeur et d'ébullition de liquide, Pourtant, aucun appareil n'était visible de prime abord. L'air épais et humide charriait des relents de nourriture avariée et de poudres astringentes. Sur les murs, des rayonnages contenaient une myriade de fioles, de flacons, de cornues et d'éprouvettes. Dans de grands bocaux remplis d'un fluide jaunâtre, des objets inidentifiables flottaient mollement. Au fond d'un aquarium à l'eau trouble, un poisson nageait vivement, ses ailerons si longs qu'il faisait penser aux plumes d'un oiseau tropical. Prudent mais curieux comme une pie, Nathan s'immobilisa devant une cuve où flottait ce qui semblait être une main coupée.
« Les créatures vivantes sont comme de l'argile, » dit André d'un ton martial. « Entre les mains d'un bon sorcier de chair, la peau, les os et les muscles peuvent être modelés. Je suis un potier qui utilise la vie comme matière première. »
Nathan regarda les tables vides, les récipients sur les rayonnages et les outils bizarres mais affûtés qui attendaient sur des plateaux ou dans des cuvettes. Sans effort, son imagination reconstitua les activités d'André.
« C'est là que tu fais tes expériences ?»«
C'est ici que je travaille, oui. »
Le sorcier tapota l'épaule de Nathan, puis laissa courir ses doigts le long de son bras.
« Et c'est ici que je t'étudierai. La partie habitation est à l'arrière de la maison, mais je passe le plus clair de mon temps dans cette aile où se trouvent mes salles de dissection et de réassemblage, mes tables de travail et, bien entendu, ma galerie des renaissances. »
Avec ses trois tables attendant des patients, ou plutôt des cobayes, cet endroit évoquait, aux yeux de Nathan, un mélange entre un hôpital militaire désert et un abattoir. Concentré sur son objectif, il repoussa ses inquiétudes dans les limbes de son esprit.
« Si on entrait dans le vif du sujet, il me faut des réponses. Merci de m'accueillir dans ton laboratoire. »«
Mon laboratoire ? Je préfère parler de mon studio. » Comme on évoque celui d'un peintre. Mon métier est un art, et j'ai créé bien des chefs-d'œuvre. Mes sujets, je les étudie, puis je trouve un moyen de les améliorer. »
Nathan tressaillit quand l'étrange poisson s'excita dans son aquarium. Mais tant pis, il avait trop besoin d'André.
« Si tu me rends mon don, je serai sacrément amélioré. Après, je vous montrerai que je suis aussi puissant que les sorciers d'Ildakar. »
Ça reste à voir, mais on devrait commencer par un examen minutieux, non ?
Face à Nathan, André lissa distraitement sa barbe. Son expression ayant changé, il ne sembla plus voir un autre sorcier en face de lui, mais... Eh bien, c'était difficile à dire.
« Enlève ta tunique pour que je t'analyse mieux. »«
Tu veux que je sois nu comme un ver, pour pouvoir me palper comme un maquignon ?»
C'est ça, oui.
La veille, les nobles d'Ildakar avaient évoqué des parties de plaisir où on devait voir assez de gens nus pour une vie entière.
Tu veux mon aide ou pas ?
Surpris par sa propre pudeur, Nathan décida de la jeter par-dessus bord.
Après tout, il était grand, bien bâti et beau, sans rien qui fût honteux à exhiber.
André tira sur la ceinture de la tunique. Et Nathan se dévêtit promptement. Malgré la chaleur ambiante, il ne put s'empêcher de frissonner.
« Les sous-vêtements aussi ? » demanda-t-il, devinant la réponse.
« Tu veux retrouver ta magie partout, non ? »
Résigné, Nathan obéit, et fut bientôt entièrement nu sous le regard curieusement brillant du sorcier de chair. Lui tournant autour, André l'étudia en marmonnant dans sa barbe. Mille ans durant, au palais des prophètes, Nathan avait échappé aux ravages du temps. En plus, il s'était en permanence maintenu en forme. Bref, aucune femme ne s'était jamais plainte de lui. Mais André semblait éprouver pour son corps une fascination scientifique malsaine. Se plaçant derrière le vieux sorcier, il lui passa une main dans le dos, d'abord de long en large, puis dans le sens de la hauteur. Sous ce contact, Nathan sentit le rouge lui monter aux joues, mais il se força à ne pas bouger. Sans cesser de marmonner, André revint face à son sujet. Lui posant un index sur le front, il suivit les contours de son visage et soupira.
« Je sens les lignes de Han, mais on dirait qu'elles se sont estompées comme des cicatrices qui guérissent. »«
Je ne veux pas que mon don s'estompe.
Nous sommes là pour éviter ça, non? Il se peut que nous devions aller chercher ton don ailleurs pour te le greffer. En d'autres termes, je devrais peut-être te reconstruire comme mes spécimens réservés à la reine.
André eut un grand sourire qui dévoila presque toutes ses dents.
Yvan, le dresseur en chef, dit que mes créations ont permis de présenter les plus beaux combats de l'histoire d'Ildakar. Mes bêtes de combat sont formidables.
Des bêtes de combat?
Nathan pensa à l'ours monstrueux.
Je crois que nous en avons rencontré une. Elle ressemblait à un ours.
Oui, les ours de combat ont tendance à s'enfuir. Ils sont bien plus durs à tuer qu'un plantigrade normal, pas vrai?
Nous avons réussi, mais non sans peine.
C'est triste. J'ai travaillé dur pour créer ce spécimen.
André haussa les épaules, fataliste, posa un index sur la poitrine de Nathan, puis suivit des lignes invisibles jusqu'à son abdomen.
Cela dit, mes créatures sont conçues pour se battre, tuer et mourir. Il a rempli son contrat.
André passa à la hanche gauche de Nathan qui se tendit davantage. Soudain, des cris retentirent dans la cour, puis une voix lança
« Sorcier de chair, nous avons du matériel pour toi. Lors d'un entraînement, deux gladiateurs d'Adessa se sont presque entretués. Tu devrais pouvoir les guérir ou au moins les utiliser. »
André se détourna de Nathan.
« Rhabille-toi, j'en ai assez vu, et allons découvrir ce qu'on m'apporte. »
Le sorcier de chair sortit et Nathan le suivit dès qu'il eut remis sa tunique. Dans la cour, la lumière le fit siller. À l'entrée de l'allée, une charrette tirée par un yaksen à l'air sinistre attendait qu'on l'invite à avancer. Un bras humain ensanglanté dépassait du haillon. André courut y voir de plus près. Le rejoignant, Nathan découvrit que le véhicule contenait deux colosses vêtus d'un simple pagne et couverts de cicatrices et de plaies. Blessé à mort, il ne serait bientôt plus de ce monde. Un des types, le crâne rasé, arborait les vestiges d'une blessure à la tête depuis longtemps guérie. La gorge ouverte, il serait sans doute le premier à crever.
« Il est presque décapité !»
dit un des deux hommes debout près de la charrette.
« Ces crétins s'entraînaient avec de vraies épées !»
Le second type, un moustachu, eut un sourire pervers.
« Adessa leur avait ordonné de se battre comme si leur vie en dépendait. Souvent je me dis que ces gladiateurs rêvent de mourir. Ils vivent pour se battre et crever !»
dit André sans s'émouvoir.
« Voyons ce qu'on peut faire de ces deux-là. »
Mal à l'aise, Nathan sautilla d'un pied sur l'autre tandis que les deux tueurs agonisaient. Durant le duel, ils s'étaient quasiment taillés en pièces. Le chauve avait perdu son avant-bras droit dans la mêlée.
« Portez-les dans mon studio !»
ordonna André d'un ton vibrant d'excitation.
« Dépêchez-vous, ça urge !»
Il sourit à Nathan.
« Désolé, mais ça m'occupera pour le reste de la journée. »
Les deux sorciers suivirent les ouvriers qui portèrent d'abord le chauve dans le studio, puis passèrent au moustachu.
« Posez le deuxième sur une table, à côté du premier. Je veux les avoir tous les deux sous la main. »
Les types obéirent sans poser de questions. Dès qu'ils en eurent terminé, André les congédia.
« Remerciez Adessa pour moi, et dites au dresseur en chef que j'aurai peut-être bientôt un combattant extraordinaire à lui proposer. »
Ravis de pouvoir s'éclipser, les deux hommes n'attendirent même pas qu'on les ait payés. Nathan se serait bien défilé aussi, mais il se sentit obligé de n'en rien faire. Se tenant à l'écart des tables pour ne pas être taché de sang, il s'efforça d'ignorer les cris et les gémissements des moribonds. Tournant autour des tables, André prépara ses instruments, puis alla chercher diverses éprouvettes, des paquets d'herbes séchées et d'autres objets de première nécessité. Baissant les yeux, Nathan vit que des sortilèges étaient gravés sur le sol, autour des tables munies de rainures de drainage, afin d'empêcher le sang des cobayes de couler partout. André regarda le vieil homme comme s'ils étaient deux collègues.
Ces types étaient des combattants reconnus et même célèbres, de bons spécimens parfaitement entraînés.
Selon toute vraisemblance, dit Nathan, ils agonisent. Crois-moi, j'ai vu plus que mon lot de cadavres.
Oui, ils crèvent, mais ça ne nous empêchera pas de les utiliser. Cela dit, il ne faut pas traîner. Le chauve est presque mort. Avec un bras en moins et une blessure à la jambe, son corps ne vaut plus rien. Heureusement, sa tête est quasiment intacte. L'autre se rétablira. Avec un peu de chance, il pourra profiter du han résiduel de son partenaire. Ensemble, ils seront plus que la simple somme de leur partie. Tu veux une confidence? Je n'ai jamais fait ça. Greffer la tête d'un homme sur le corps d'un autre, quel cerveau dominera? Je me le demande.
Nathan fut horrifié. Tu veux vraiment greffer une seconde tête au moustachu?
Pourquoi pas? Pour un sorcier de chair, c'est un jeu d'enfant. Simplement, je devrais couper puis greffer une partie de la colonne vertébrale pour que cette tête ait un support. Je mettrai à vif les nerfs et je les connecterai au cerveau de la seconde tête. Après, cautériser, recoudre ne sera pas bien compliqué.
J'en perds presque mes mots, soupira Nathan. Pourquoi veux-tu faire une chose pareille?
André sembla trouver la question absurde.
Parce que j'en ai l'occasion et que ce sera intéressant.
Pour la première fois, Nathan douta que ce type soit capable de l'aider à redevenir entier. Le laisser charcuter son corps, son esprit et son han ne lui disaient plus rien.
« Sans ton don !»
grogna André.
« Tu ne pourras pas m'assister. En fait, ta présence risque même d'affecter mon pouvoir. Il vaudrait mieux que tu partes. Je réfléchirai à ton problème, mais j'ai déjà un diagnostic. Ce qui ne va pas chez toi crève les yeux. »
Alors que Nathan battait déjà en retraite, la dernière phrase d'André le tétanisa.
« Tu sais comment j'ai perdu mon don ?»«
La magie reste en toi, mais tu n'as plus le cœur d'un sorcier. Tu dois le retrouver. Le changement stellaire a soufflé des étincelles. Heureusement, c'est réparable. »«
Comment ?»
demanda Nathan. Les deux moribonds continuaient à se vider de leur sang. Désormais, le chauve ne criait même plus.
« Si je remplace ton cœur par celui d'un puissant détenteur du don, ton han redeviendra intact. Alors tu seras de nouveau le grand sorcier que tu as rêvé d'être. »
André se pencha sur ses cobayes.
« Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps de m'en occuper. À présent, file et laisse-moi travailler, sinon ces deux pauvres âmes ne seront plus que des quartiers de viande. »
Malade et découragé, Nathan fila sans demander son reste.